Alors, mes chers amis, rebonjour. Et si vous voulez, nous allons procéder à la poursuite de certaines réflexions sur ces diverses fourberies du malin. À la fin de la deuxième cassette, nous en étions à la sixième de ces fourberies, celle qui consiste à se servir de notre bonne intention de rendre l'Église plus vivante, de la mettre davantage à la portée du peuple, et par conséquent nous induit en tentation de vouloir procéder par la voie des masses médias. Et il y a à cela, je vais commencer à l'expliquer, deux grandes conséquences. C'est que les masses médias sont des spécialistes souvent en montage en épingle du sensationnel. Et c'est un risque de déformer par conséquent notre message évangélique. On dit souvent que les masses médias veulent être les défenseurs de la liberté, mais il faut quand même admettre qu'ils sont souvent, malgré eux, des prisonniers enchaînés par un concept du sensationnel qui les amène à chercher le piquant, le croustillant et donc le scandale possible. Et c'est pourquoi, à quelques exceptions près, très heureuses, d'excellents journalistes et d'excellents médias, on peut dire que dans nos masses médias modernes, la véritable vérité et la charité et la liberté sont sorties d'orbite. On nous répète continuellement que les masses médias veulent tout savoir et qu'ils ont un droit à la vérité pour informer le public. C'est bien beau en principe, mais on sait fort bien qu'en pratique, c'est pas du tout cela qui arrive. On n'est vraiment pas intéressé à nous donner la vérité qui est claire, qui rassure, qui encourage, qui stimule vers le bien, mais plutôt les nouvelles qui scandalisent, prennent en défaut les uns ou les autres, mettent un état de guerre entre les différents groupes, suscitent des remous, des doutes. Et on le voit bien, il se développe actuellement toute une génération de journalistes, d'éditorialistes, d'intervieweurs à la télévision ou à la radio, qui cherchent beaucoup plus à mettre en boîte les gens qu'à faire valoir les personnes, et qui arrivent avec des questions piégées pour que quelqu'un se contredise, et qui coupent facilement la parole quand quelqu'un se met à faire valoir certains sujets bonifiants. On sait fort bien le sort qui arrive aux rectificatifs, aux mises au point, quand on attaque injustement quelqu'un dans les journaux et que le journal reçoit une mise en demeure de bien vouloir rectifier, sinon ils vont être poursuivis. Ben, des fois, la nouvelle a été en première page, et puis la mauvaise impression est créée, et vous allez retrouver le rectificatif, la mise au point ou les excuses en 15e ou 20e page. On sait très bien comment, prenez le cas actuellement de Duvalier et de Marcos. Ils n'étaient pas si tôt partis de leur pays qu'une équipe est arrivée pour prendre la relève. En moins de 24 heures, on jouait déjà au prophète de malheur concernant ses successeurs. Au lieu de leur donner une chance de pouvoir remettre le pays en ordre à la suite de 15, 20 ou 30 ans de dictature, immédiatement, dans les bulletins de nouvelles, on se demande s'ils vont être capables, on souligne tous les troubles, de quoi décourager notre milieu. Alors, il faut quand même faire bien attention. Quand on pense que nombre d'hommes et de femmes d'Église actuellement ne jure que par les masses médias modernes comme moyen de contacter les fidèles et de renouveler le monde. C'est piégé au point de départ et ça ne peut jouer qu'au détriment du message évangélique. Ensuite, il faut dire que, deuxième conséquence, pour devenir une vedette aujourd'hui dans les masses médias modernes, occuper leurs colonnes ou faire leur bulletin de nouvelles, il ne faut pas trop se prononcer sur la bonne nouvelle de Jésus. Mais il faut plutôt être au courant de tous les griefs du monde, les mauvaises nouvelles du monde. Il faut avoir une attitude qui fait choc, qui fait progressiste, qui fait réagir les gens. Et alors, si on passe par là et qu'on cherche la vedette, eh bien, disons-nous-le, tenons-nous-le pour dit, il y a un tas de sujets dont on ne peut plus parler dans ces milieux-là, de sainteté, de vertu, de mortification, de sacrement, de prière, même d'amour de Dieu. On peut encore parler de l'amour du prochain sur les ondes ou dans certains masses médias, pourvu que ce soit un peu dilué, l'amour du prochain, pas au sens de Jésus, mais au sens de la philanthropie, du bienfaire dans le monde. Alors, il y a là une purification à faire, un détachement à faire. Jésus a, par sa vie et sa mort, purifié pour nous le sens du succès visible et du publicitaire. Il a renoncé à faire parler de lui, il a renoncé à exercer le pouvoir mondain, il n'a pas orchestré d'aucune manière sa publicité, et même beaucoup de récits ont joué contre lui. Mais par la puissance de la grâce divine, tout s'est rétabli avec le temps. Et le message de Jésus a passé à travers les siècles. Alors l'Église d'aujourd'hui, à mon avis, doit faire comme Jésus, communiquer la bonne nouvelle et la laisser agir sans compromis. Passons à la septième fourberie. Et vous allez, je m'excuse, je vais un peu hâter le pas parce que je vois filer le temps et je voudrais, dans cette première demi-heure, terminer l'ensemble des fourberies qu'il nous faut surveiller. La septième, je l'appelle la fourberie de l'esprit critique. Vous savez qu'en principe, c'est bon d'avoir un bon esprit critique, d'être capable de faire l'examen méthodique d'un principe, d'un fait, d'un événement, d'une personne, d'une institution, pour pouvoir porter sur elle ou sur eux un jugement d'appréciation. C'est d'ailleurs ce qui est requis au fond de ce qu'on appelle le discernement spirituel. Mais attention, l'esprit critique l'a trop poussé, offre au malin une porte d'entrée extraordinaire, parce qu'il réussit à aiguiser notre esprit critique. Il le rend pointu, piquant et même blessant. Prenons ça sur le plan des personnes, par exemple. Bien, quand on a un esprit critique, là, ce sens de l'esprit critique assez poussé, il commence à nous amener à nous en servir sans vraie raison, sans proportion, sans charité, au nom de toutes sortes de beaux motifs, piégés, imaginés. On part avec une bonne intention, on fait jouer son esprit critique avec le désir d'attirer l'attention d'une personne sur quelque chose qui ne va pas. On veut mettre les gens en garde contre telle et telle chose. Et puis, notre vue critique est bonne, elle part d'une bonne intention, on veut faire une monition, on veut faire une interpellation. Mais peu à peu, le judoka, le fou, nous pousse plus loin et il nous amène à nous y complaire. Ça devient une occasion de briller, ça devient une occasion d'attirer l'attention sur soi. Ça devient un jeu, un sport. On se sent capable de voir le petit angle faible de quelqu'un, le point regrettable de telle œuvre, de tel projet. Puis, peu à peu, on glisse dans ce sport et ce jeu vers une occasion de nuire et d'attaquer et de manquer à charité. Alors, lentement mais sûrement, l'esprit critique se prostitue et devient un esprit de critique. Et un jour, la critique de l'esprit, avec un grand E. Même l'esprit critique qui joue contre soi. L'esprit critique, des fois, est détourné pas seulement vers les autres, mais des fois, on développe un esprit critique vis-à-vis soi, qui est catastrophique. Et le malin entre dans ça, dans le dénigrement constant de soi. C'est une des ruses les plus raffinées, ça, du malin. C'est une forme, et il développe là une forme déguisée d'attirer l'attention sur soi. On ne réussit pas à prendre la vedette en se classant. On développe un style qui consiste à se déclasser. Et au début, ça va bien. On attire la sympathie, la pitié, et les gens s'arrêtent pour nous réconforter, nous stimuler, nous dire qu'on n'est pas si mal que ça, nous expliquer nos faiblesses. Mais tranquillement, ils s'aperçoivent qu'il y a là un stratagème, qu'il y a là un plan, c'est systématique. On se dévalue, on se déprécie, on se critique. On tombe par conséquent dans un abus du sens critique envers soi. Et alors, vous imaginez comment le malin se réjouit. Il y a toute une cascade là, de joie pour lui parce que il nous fait croire qu'il y a là de l'humilité et de la simplicité alors qu'il n'y en a pas. C'est de l'orgueil pur et simple. C'est une recherche de soi encore. On parle de soi négativement. C'est une façon de se centrer sur son moi. Et puis ensuite, l'autre conséquence, c'est qu'on se trouve à dénigrer un être qui a été créé par Dieu, pas si stupide qu'on le dit, pas si plein de défauts qu'on le dit, pas si de travers qu'on le dit. Par conséquent, c'est une gifle à Dieu. C'est une dépréciation des grâces que Dieu nous donne, comme s'il ne nous avait donné que des défauts et des lacunes. Et ce qui arrive, c'est qu'après ça, on entend l'écho de sa voix, de son dénigrement, puis on respire avec ça. Et de là à croire que tout le monde dénigre, ce qui n'est pas le cas, c'est seulement son écho qui vient, sa dépréciation, ça nous démoralise, ça nous décourage. Et dernière conséquence dont le malin se réjouit, c'est qu'à la longue, on détruit sa réputation et la confiance des autres. Car menter, il en restera toujours quelque chose. Ce n'est pas vrai seulement de ceux qui mentent à mon sujet. Si moi je mens à mon sujet et je répète des choses qui ne sont pas vraies, il en reste quelque chose et la victime de ça, c'est moi-même. Et combien de laïcs, de prêtres, de religieux, de religieuses, se sont fait prendre au piège de vouloir donner un témoignage de vie pour édifier, puis se sont laissés prendre à aller déterrer leur passé, toute leur inconduite passée, et servent ça constamment. Le malin passe à travers cette stratégie-là d'une façon victorieuse. Parce que si à un moment donné on raconte son inconduite passée, ça peut-être édifier d'entendre sa conversion, mais à la longue, ça mine la confiance des gens envers tous ces prêtres, tous ces religieux qui ont eu des vies plus ou moins répréhensibles. Alors, faisons attention. Il pousse sa stratégie jusqu'à nous conduire à ce que j'appellerais là le dénigrement à crochet. L'esprit critique aussi peut nous entraîner dans toute une spirale de difficultés. On va commencer par des caricatures, des taquineries des autres, et puis peu à peu, avec un tout petit peu plus de malice, on commence à se moquer des autres, à faire des satires, un peu de sarcasme, certaines exagérations. Et très, très souvent, la charité chrétienne amorce une vraie glissade. Vous savez, on entend souvent des gens qui commencent à se moquer aisément et fréquemment des trop dévots, des trop dévotes. des punaises de sacristie, des grenouilles de bénitier, des bigots, puis des bigotes, puis des calotins, puis des cafards, puis des cajots, puis des cajottes. On commence à faire des faces là-dessus. Puis tranquillement, on finit par en voir partout. Puis on finit par exagérer, par charrier, par succomber, par détruire plus souvent qu'à son tour. J'ai encore, moi, rencontré sur la terre quelqu'un qui est resté maître de son humour avec l'amour du Seigneur dans le domaine spirituel. Alors pensons-y, que sert à l'homme de sauver son esprit d'humour s'il vient à perdre son esprit d'amour à lui, au Seigneur? Et une autre des conséquences de cet esprit critique, c'est qu'on se prend à son propre piège. Ceux qui, pendant des années, se sont moqués là, des grenouilles de bénitier ou des bigots, des bigotes, là, à un moment donné, ont créé chez eux une peur. Ils en ont tellement parlé, ils les ont tellement décrits, que ça les conditionne à freiner leur propre transformation parce qu'ils ne voudraient pas devenir comme eux autres. Ils ont peur de tomber dans ces comportements et un jour se faire accuser d'être illuminé, d'être trop tourné autour trop du clergé, d'être capoté, etc., etc. Mais il y a là, ici, je l'ai souvent constaté, une espèce de justice immanente. La plupart de ceux qui ont joué ce jeu-là ont fini par être étiquetés un jour ou l'autre quand ils se sont convertis de cette manière-là. Parce que en définitive, ce qu'on appelle les dévots, puis les cajots, puis les cafards, les punaises de sacristie, ils n'ont pas que des défauts. Et selon le calcul des probabilités, on en a tous un petit peu de ça, à un moment donné, au moment de notre conversion, au moment de notre renouvellement spirituel, ça ne tombe pas ça, en ordre du jour au lendemain. Alors, il y a une période d'équilibre, qu'il est difficile et pendant un certain temps, on peut facilement se faire dire par d'autres ce qu'on a dit de bien d'autres. Une autre fourberie, c'est la fourberie de la compréhension, de l'indulgence et de la tolérance à tout prix. Vous savez qu'il s'est établi une espèce de dénormalisation générale. Depuis 20-25 ans, on a replié, démonté et serré nos échelles de valeurs traditionnelles. Nos échelles traditionnelles de valeurs ou nos échelles de valeurs traditionnelles. Et on est arrivé à une espèce de confusion entre la condamnation du péché, ce que Jésus a fait clairement, et l'amour du pécheur. Et aujourd'hui, sous prétexte d'être tolérant, on est tolérant envers le péché aussi bien qu'envers les pécheurs. Et le dicton le plus diabolique du 20e siècle, à mon avis, celui qui a fait le plus tard et qui est le plus répandu, tout le monde le fait, fais-le donc. Ça a enlevé toute norme, toute distinction entre le normal puis l'anormal. Et c'est parce qu'on a enlevé ça, eh bien, que toutes les structures fondamentales de la société, comme la liberté, la justice, le droit, l'amour, le respect des autres, sont en train de se vider de leur sens et de leur portée. On distingue plus ou plus difficilement le bien du mal. Sous le couvert de la compréhension, de la tolérance, de l'indulgence face aux autres, Judoka, notre ange de lumière, nous a fait entrer dans un tunnel sombre et sans issue. Et on le voit bien, les gens veulent être de plus en plus indulgents, de plus en plus tolérants. Trop de fois on entend dire « Ah, il ne faut pas être trop exigeant, il faut être compréhensif, il faut être tolérant. » Or, qu'est-ce qui se produit dans le monde? Il n'y a jamais eu si peu de tolérance, si peu d'indulgence. Tout va en s'aggravant à ce point de vue-là. Alors, c'est facile de repérer l'œuvre du malin dans tout ça. Je parlais de ce dicton diabolique, tout le monde le fait, fais-le donc. J'ai commencé il y a quelques années à remplacer ça par un autre dicton évangélique, celui-là, moi. J'emploie, Seigneur, si tu le veux, tu le peux, fais-le donc. Et alors, être, au lieu d'être comme dans le dicton populaire, une explosion du moi, tout le monde le fait, fais-le donc, en disant, Seigneur, si tu le veux, tu le peux, fais-le donc, c'est une explosion de foi. Bon, alors, je vois, je passe à une autre fourberie. Il y aurait tellement de choses qu'on pourrait... Mais d'ailleurs, je vais y revenir sur la plupart de ces points-là à l'occasion de divers enseignements qui se donneront sur d'autres sujets. Je parle de la fourberie que Satan emploie concernant la comparaison et l'émulation entre nous. Vous savez qu'il nous, pour progresser, il nous faut des exemples, il nous faut des modèles, une saine émulation. Et l'Église s'est toujours chargée de nous donner des exemples dans son histoire. Toute l'idée qui est à la base des canonisations et des béatifications, du récit des vies de saints, c'est pour nous stimuler, c'est pour nous encourager. Parce qu'on a besoin, pour grandir spirituellement, de savoir que ce qui nous est proposé est accessible et que certains ont pu y avoir accès avec succès. On a besoin d'être encouragé comme ça. Mais le danger qui nous guette, il est triple et le diable se charge de nous y conduire tout droit. Vous connaissez comme moi le suffixe d'origine grecque « it » pour indiquer que des maladies sont de nature inflammatoire. Eh bien, le malin nous conduit à trois maladies inflammatoires que j'appellerai l'imitationnite, la comparaisonnite et la compétitionnite. L'imitationnite, ça consiste justement à nous amener à lire les vies de saints ou certains articles spirituels et à vouloir imiter tel quel ce qu'on y trouve, soit tout le style ou l'esprit de ce saint, ou un petit peu de lui, ou un petit peu d'elle, ou un petit peu de lui et d'elle à la pige ici et là. Et pendant ce temps-là, il nous amène à être, à chercher à être des copies conformes, plutôt que de demeurer des originaux. Et il nous amène à vouloir prendre le modèle en dehors de nous pour l'importer à l'intérieur, alors que le Seigneur a déjà mis notre modèle de sainteté en nous. Et c'est ce modèle qui, à l'intérieur, inspiré par sa grâce, doit se révéler à nous. La comparaisonnite, bien, c'est cette tendance que l'on peut avoir à vouloir toujours se comparer aux autres. Depuis qu'on est jeune, qu'on nous compare, qu'on nous mesure, t'es pas comme ton frère, t'es pas comme ta sœur, t'es mieux que ci, t'es mieux que ça. Et alors, il nous induit en tentation de comparaisonnite et nous distrait par un genre de torticolis spirituel où on passe son temps à regarder où en sont rendus les autres, où les autres, que font les autres, et pendant ce temps-là, on manque de concentration sur ce que le Seigneur veut faire en nous. Et enfin, la compétitionnite qui nous distrait par le fait qu'on se sent dans une course par rapport aux autres, alors qu'en fait, la sanctification est toujours une course unique de soi par rapport à soi. C'est-à-dire que l'important, c'est d'être aujourd'hui, pour moi, supérieur à ce que j'étais hier et inférieur à ce que je serai demain, peu importe où en sont rendus les autres. La dixième fourberie, je l'appelle la fourberie de l'assurance acquise et protégée. Normalement, quiconque a dit oui au Seigneur se sent tranquillement de plus en plus rapproché de lui, d'où on éprouve une plus grande paix, une plus grande connaissance, une plus grande assurance. Eh bien, à un moment donné, Scapin le malin s'insinue dans nos vies ainsi renouvelées ou en plein essor spirituel. Et comment? Et ça, moi, je que je le trouve donc schnappant quand il fait ça. Mais il l'a fait. En conseillant lui-même à ces gens renouvelés dans le Seigneur de bien vouloir se prémunir contre les mauvaises influences. Et bien entendu, quand il parle de se prémunir contre les mauvaises influences, ce sont contre les vrais disciples du Christ, contre l'Église, donc contre tous ceux qui pourraient nous aider à continuer. Alors, il profite de la fierté, de la joie que quelqu'un a d'être renouvelé pour tout à coup lui souffler l'idée suivante, « Faut que tu protèges ton acquis spirituel. » Tiens ça dans ton coffre-fort, ne partage pas avec les autres, il y a tant d'oreilles malveillantes autour, alors barricade-toi, mets ça en conserve. C'est le bon slogan anglais, what we have, we hold, garde ça. Méfie-toi des autres, attention, les autres n'ont pas eu les grâces que tu as eues, alors ils ne peuvent pas discerner comme il faut. Et alors on coupe avec les conseillers, on se retire des communautés, on devient très sûr, on forme sa petite église, sa petite chapelle, son petit clocher. J'aurais une cassette d'ailleurs là-dessus pour dénoncer ce que j'appelle l'establishment de nouveaux riches spirituels. On perd par conséquent, par voie de conséquence, sa docilité, sa souplesse envers le Seigneur. On devient d'abord un ermite, puis après ça, un hermétique. Parlons, onzièmement, de la fourberie, de la perfection et de l'impeccabilité à tout prix. C'est bien évident que je n'ai rien contre la perfection ou contre le désir d'impeccabilité en soi. Mais judoka, en trompe plusieurs, en cultivant chez eux un souci déréglé de la perfection et un désir exagéré d'être impeccable. Ils nous obsèdent avec l'idée de nos faiblesses. Et en nous obsédant avec nos faiblesses, nos lacunes, nos retards, nos délais, nos hésitations, il réussit à nous faire sentir indignes, donc à nous désécuriser, donc à nous amener à nous taire, donc à démissionner, et à nous culpabiliser au point qu'on finit par croire qu'il n'y a aucune miséricorde qui peut nous venir de Dieu. Alors que la miséricorde de Dieu est infinie, inconditionnelle et tout, il nous fait sentir à un moment donné qu'on est vraiment, c'est irréversible notre situation. Et alors, ça produit chez nous le découragement, l'inquiétude et tout cela. Alors que, et la culpabilité, et l'indignité, et l'éloignement de Dieu, alors qu'au contraire, Dieu, par sa miséricorde, cherche à pacifier, à sécuriser, à réconforter. Et le malin, lui, finit par nous faire douter de nous-mêmes et de nous neutraliser complètement. Et on me fait signe qu'il reste à peine une minute, alors nous allons passer rapidement aux deux autres fourberies pour terminer cette série et nous conclurons par la troisième partie. Qu'est-ce qu'il faut faire en face de ces stratégies-là? Alors vous le voyez, c'est à peu près toujours son même scénario. Il profite de bonnes intentions qu'on a pour ne pas nous prendre de front. Il entre à l'intérieur de ses bonnes intentions, puis là, il nous brouille la vision, il nous brouille la communication, et puis il met ses plures de banane, et puis à un moment donné, on se retrouve dans une situation